Hélène Dano se joint à nous.
Oui.
Fraîchement tirée du trafic. Bon, Patrick, raconte-nous le cas de cette femme que tu as rencontrée, là, qui a des tremblements.
Ben, Mélanie Fortin a 35 ans quand elle constate qu'elle a des tremblements. C'est son chum qui dit hey, quand tu tiens ta fourchette, la fourchette tremble un peu, bouge un peu. Fait que là, elle va voir son médecin de famille à Laval. Le médecin de famille fait une demande en neurologie. Et le rendez-vous avec son médecin, c'est en février 2016. Et ça fait 2 ans et 8 mois. Et elle n'a toujours pas été vue en neurologie. Et c'est ce que je raconte aujourd'hui dans la presse. C'est son parcours de la combattante, dans le fond. Les tremblements s'aggravent. Les tremblements s'aggravent au point où elle, le punch là-dedans, c'est qu'elle est infirmière. Maintenant, elle ne peut presque plus poser des gestes essentiels au métier d'infirmière, comme insérer une aiguille puis des trucs comme ça dans une veine. Donc, elle a migré vers un poste de gestion. C'est un choix. Mais ça illustre beaucoup la bureaucratisation du système. Parce que moi, je suis convaincu que un coup de téléphone ou deux, là, puis on va trouver un neurologue. Mais comme il faut passer par un couloir de service qui est informatisé et on peut pas sortir de ça, bien, Mme okay. Fortin n'a pas de rendez-vous.
Ça marche comment?
Ben ça, c'est un bel exemple là, qu'on a avec le nouveau centre de rendez-vous, le CRDS, qu'on appelle. Effectivement, maintenant, on a mis un fonctionnaire entre le médecin omnipraticien et le médecin spécialiste. Et ça, ce cas-là, nous, on vit ça au quotidien, malheureusement. Et là, on ne peut plus intervenir. On n'est plus capable d'appeler le spécialiste puis de lui dire, pourrais-tu l'avoir avant? Ça va pas, ça se détériore, j'aurais besoin d'un avis.
Mais pourquoi vous ne pouvez pas l'appeler?
Ben, on peut l'appeler, mais lui aura pas de plage parce que les plages sont prédéterminées, sont déterminées par le centre de rendez-vous. Et même si ça va plus loin que ça, maintenant, c'est par région. Alors, avant, on avait des spécialistes, des spécialistes de Montréal. Maintenant, ils ne prennent plus nos patients si on est de la rive sud ou de la rive nord. Alors, en fait, on embourbe le système, on a un fonctionnaire entre les deux médecins et on ralentit l'accès aux spécialistes.
Mais cette dame-là, Mélanie Fortin, ce qu'elle m'a dit aussi, c'est qu'il y a quelques années, elle a eu un de ses enfants a eu un problème. Et là, difficulté à avoir un spécialiste. Je pense que c'est un ophtalmologiste. Et finalement, elle a fait ce que beaucoup de gens font ou faisaient. Elle a pris le téléphone, elle a appelé le bureau d'un ophtalmo à Montréal. Elle n'est pas à Montréal. Elle a plaidé sa cause avec la secrétaire et elle a eu un rendez-vous. Et là, comme elle me dit, aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Et ce que vous me dites, Mme Dano, c'est que aujourd'hui, ce genre de, on va prendre un anglicisme, de back channel-là, de canal informel, ça se peut plus.
Ça n'existe plus parce que là, on a mis des règles. Puis malheureusement, plus on met de règles, plus on crée des problèmes et on pense qu'on va en régler. Au tout début, l'idée était bonne de dire que, bon, possiblement qu'on allait obtenir des rendez-vous pour des cas prioritaires plus rapidement. Ce qui se fait dans certains cas, c'est vrai. Sauf que pour les cas qui sont moins prioritaires maintenant, ils sont dans un dédale bureaucratique qui fait qu'ils peuvent attendre 1 an, 2 ans et ça n'a aucun sens. À la base, de toute façon, quand on regarde le CRDS et qu'on cote un patient E, c'est-à-dire E, c'est 1 an d'attente. Mais 1 an d'attente, je ne sais pas qui a pensé à ça, là. Qui a pensé qu'un jour, quand moi, je suis omnipraticienne, j'ai besoin de l'opinion d'un spécialiste, que ça peut attendre 1 an? Même pour les cas non prioritaires, c'est un non-sens d'avoir permis ça dès le début.
Mais il y a des médecins spécialistes de l'autre côté, là, qui, eux, me disent qu'avec ce système-là, au départ, en tout cas, ça a peut-être été corrigé, là, il y avait plein de plages qui n'étaient pas occupées par des patients.
Puis, puis actuellement, il y a dans
certaines
régions...
Fait que là,
tu as
des patients qui attendent. Puis il y a des médecins qui attendent de voir des patients.
Voilà. Mais c'est encore la régionalisation. Dans certaines régions, l'accès va assez rapidement, va bon train, alors que dans d'autres, comme la Rive-Sud, Rive-Nord, c'est l'enfer.
La régionalisation, j'imagine que c'est excellent pour le système. Ça permet là, de tout mettre dans des petites cases. Mais c'est pas né avec les CRDS, là, les centres de rendez-vous pour les médecins spécialistes. Il y a quelques années, Paul, moi, j'ai fait un reportage sur une famille qui avait un enfant là, multipoqué. Okay? Il y a beaucoup d'enjeux, handicapés physiques, des retards intellectuels, etc. L'enfant était suivi dans ce qu'on appelle, je pense, un CRDI. À Laval, la famille est tellement sollicitée que la mère doit arrêter de travailler. Et là, tu as moins d'argent dans le ménage. Qu'est-ce qu'on fait? On décide de déménager. Donc, on s'en va, je pense, dans le bout de la plaine, dans le bout des Basses-Laurentides. Okay? L'enfant est traité à Laval. Okay? Et là, à un moment donné, il y a un fonctionnaire qui remarque que l'adresse n'est plus à Laval. Fait que là, qu'est-ce qu'on dit? On dit à la famille dont l'enfant a des services à Laval. Bien, là, madame, vous ne pouvez plus être ici à Laval. Il faut aller dans les Basses-Laurentides. Fait que là, on change de région, on retombe sur la liste d'attente, on n'a pas de service et le punch.
Pas de suivi.
On dit à la famille, ah, en passant, la marchette qu'on avait donnée à votre fils, faudrait nous la redonner. Mais la régionalisation, c'est aussi ça. C'est traiter les gens comme des dossiers, comme des usagers, alors que ce sont des humains.
Exactement.
Puis, ce qui s'était passé quand j'avais chroniqué là-dessus, Paul, c'est qu'évidemment, le TQ, il a eu sa marchette. Il l'a gardé. Mais c'est un problème, ça, que tant que c'est pas dans le Journal de Montréal, tant que c'est pas dans la presse, tant que c'est pas dans la Gazette, il n'y a personne qui allume. Puis, j'ai l'air fâché, mais ce que Mme Fortin a vécu, moi, ça m'a fait dire beaucoup de mots d'église. Ça n'a pas de bon sens. Oui, notre système est mieux que les Américains, mais on est en train de le tuer avec des histoires comme ça.
C'est inhumain. C'est inhumain, mais certainement. Oui. C'est... Écoute, les gens vivent de l'angoisse parce que là, ils développent autre chose. Hein? Quand on attend là, de voir le spécialiste, que notre problème s'aggrave et qu'on n'a toujours pas accès, ben, les gens deviennent angoissés, performent moins au travail. Alors, tout s'ensuit. Mais essayez d'expliquer ça là, actuellement dans la machine, puis vous regarderez la ligne de dénonciation de la Fédération des médecins omnipraticiens. C'est ça la principale cause de... Nous-mêmes, comme omnipraticiens, on doit vivre avec ça. Là, le patient revient nous voir, nous dit « Je l'ai toujours pas, mon rendez-vous, je fais quoi? » Mais j'ai plus accès, je suis plus capable de faire devancer. Et,
mais ce que je comprends, c'est que dans les cas vraiment urgents, là, je parle d'un cas de cancer, mettons, ou je sais pas, là,
oui.
Là, ça va aller plus vite.
Ça va plus vite s'il n'y a pas de raté. Généralement, oui, c'est la priorité aux soins qui sont les soins prioritaires qu'on dit, oui, il y a un accès peut-être plus rapide, mais on l'avait avant quand on prenait le téléphone puis qu'on disait, je pense qu'il y a une masse cancéreuse, pouvez-vous le voir rapidement? Amène-moi-le demain dans mon bureau. Ben, c'est comme ça que ça se passait. Ça allait super bien parce que ça prenait des canaux. Ça nous prenait plus de temps, je vous dirais. Mais quoi que quand on remplit ces formulaires-là, c'est pas tellement plus économique en termes de temps.
Ben, c'est le consensus que je vois, moi, dans les histoires que j'entends. Puis comme toi, Paul, il y a bien des gens qui m'écrivent dans le cadre de mon travail. C'est pas scientifique comme observation, mais accident de voiture, cancer, crise cardiaque, t'es pris en charge extrêmement rapidement. Mais si tu souffres, puis que t'es couché sur ton plancher de cuisine, comme le monsieur qui s'est retrouvé dans les médias anglophones hier, là, fracture de la hanche pendant, tu sais quoi, 6, 7, 8, 10 heures avant qu'on vienne te chercher, si t'es pas en danger de mort, ben là, ça se peut que tu souffres. Et c'est là que je dis qu'on est en train de tuer le système, parce qu'on va développer un sinistre qui va... Les gens vont crier pour avoir un système privatisé. Je pense pas qu'au final, ça va être meilleur.
Puis il y a des cas aussi qui semblent pas prioritaires, mais qui empêchent les gens de travailler. J'ai eu un patient qui travaille en construction, qui a un ménisque déchiré, qui, lui, à chaque fin de journée, a le genou super enflé. Il souffre toute la nuit, il dort pas. Mais là, lui est considéré dans les priorités D, qui sont 3 mois, pour finalement apprendre que non seulement c'est pas, ça sera pas 3 mois dans les Laurentides, ça va être 1 an minimum. Alors, il fait quoi? On l'arrête de travailler? C'est un gars de 36 ans, là.
Qu'est-ce que vous avez fait?
Je l'ai envoyé en Ontario. 1 mois plus tard, il avait été vu et opéré.
OK, mais pourquoi en Ontario, ils sont capables de faire ça?
Bien, c'est ça. C'est ce qu'il faudrait poser comme question. Quand on regarde le système ontarien, il y a beaucoup moins de réglementation. Il y a eu une décentralisation des services. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être rapatriées au Québec. Nous, ici, là, avec la réforme Barrette, on a fait l'inverse. On a centralisé davantage, on a bureaucratisé davantage, alors que l'Ontario, on fait l'inverse. Et il faut croire que ça fonctionne mieux, parce que quand tu regardes la population puis le prix per capita est sensiblement le même qu'au Québec.
Mais ça veut dire, juste que je comprenne bien, là... Je vais prendre les deux exemples. Si je change de région, je viens de déranger la machine, puis on pourrait me couper le service, mais je viens d'une autre province qui est le Québec, puis en Ontario, ça les dérange pas.
Non, ça les dérange pas.
Mais en fait, ça les dérange pas. Moi, j'ai vu des reportages où les gens de Hawkesbury sont tannés de voir des Québécois.
Ben
Hawkesbury,
oui.
C'est une ville frontalière, là, juste de l'autre bord de la rivière, près de Grenville, en Ontario. Les gens d'Hawkesbury trouvent ça moins drôle de voir des gens arriver dans la salle d'urgence qui viennent du Québec.
Mais il y en a de plus en plus, parce que les gens préfèrent faire 1 heure de voiture de plus pour attendre 3-4 heures à l'urgence versus 20 heures à Saint-Eustache. Mais ça marche pas. On est d'accord avec ça.
Mélanie Fortin, dont je parle dans la chronique dans la presse aujourd'hui, je pense qu'elle irait à Sept-Îles, là.
C'est clair.
Elle prendrait une semaine de congé pour aller consulter un neurologue à 1000 km d'ici, là.
Puis ce qui est triste, c'est probablement qu'à Sept-Îles, où il y a certaines régions, même au Québec, où il y a des attentes où les spécialistes seraient disponibles dans 4 à 6 semaines. C'est ça, malheureusement, le malheur de tout ça.
Mais juste pour conclure, parce que le temps file, mais regardez les courriels rapidement. Quelqu'un qui dit « J'étais en attente, j'ai appelé dans une clinique d'orthopédiste, j'ai négocié et ça tombait bien parce qu'il y avait des plages ouvertes
libres
dans son affaire. Fait que j'ai pu passer dans l'après-midi. Ça fait un an, puis j'attends encore un appel du centre pour m'expliquer que...
Ben voilà.
Il va peut-être l'avoir dans 2 ans.
Peut-être. Faut juste que tu te fauvilles dans le système. Merci beaucoup.
Merci.
8h56, les ponts de la Rive-Sud.